Champagne, bonjour. Troisième journée en Côte d'Or. Avant d'entrer dans ce territoire, je vous annonce un événement qui se tiendra dans une semaine, mercredi 3 juillet à Metz, sous le titre des Assises de l'éducation artistique et culturelle. Il s'agira de parler des expériences qui sont menées dans les territoires bénéfices des enfants et des jeunes, puisque l'éducation artistique et culturelle est devenue une priorité. Beaucoup de rencontres et beaucoup de questions qui seront débattues le 3 juillet à l'Arsenal de Metz, cité musicale, de 9h à 17h et l'entrée est libre. Comme par hasard, notre premier invité donne des cours de musique, mais il présente aussi la particularité de construire ses instruments et d'avoir été repéré par l'agence France Entrepreneur. Étienne Zamit fabrique des percussions dans son atelier de Darcey. Autre approche de la création artistique sous un angle encore plus étrange et cocasse. Le cabinet de curiosité, celui de Fabien Anceau, second invité, qui prolonge un café associatif où tout est possible, d'où le nom Les Impossibles.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Étienne Zamit, bonjour.
Bonjour Philippe.
Étienne, j'ai eu le courrier de Geneviève que vous connaissez bien, parce que c'est votre maman, on peut tout dire. Elle m'a mis l'eau à la bouche parce qu'elle m'a dit voilà, Étienne a créé sa micro-entreprise de tambour amérindien, il les fabrique, il fait des stages de fabrication et il fait de la sonothérapie à Darcey. De la sonothérapie, ça je voudrais bien avoir des explications.
Eh bien, figurez-vous que c'est même pas moi qui ai collé cette étiquette sur le projet, puisque c'est en présentant face à un jury d'entrepreneuriat en Haute-Côte d'Or qu'on m'a dit, ben, en fait, ce que vous faites, c'est de la sonothérapie, c'est-à-dire que vous utilisez les vibrations des instruments que vous créez pour créer du bien-être avec les personnes avec qui vous travaillez. Et effectivement, j'ai cherché un peu, et c'est bien ce terme-là, sonothérapie, qui est en fait une pratique complémentaire pour accompagner les processus de guérison.
Alors, je vais vous demander des explications sur cette fabrique à entreprendre, puisque donc vous avez, en novembre dernier, reçu le prix coup de cœur de cette fabrique de Haute-Côte d'Or.
Eh bien, c'est un groupement en fait de plusieurs associations qui se sont mis en synergie pour permettre à des projets comme le mien d'émerger un petit peu. Et cette fabrique à entreprendre m'a permis en fait de trouver des interlocuteurs et des partenaires pour que je puisse créer en fait mon métier.
Cette vocation, vous l'avez trouvée, ou en tout cas a trouvé confirmation dans vos voyages, en particulier au Burkina Faso et au Guatemala?
Ça a été finalement assez constructeur, ces voyages, puisque au Burkina Faso, il y a une présence très très forte des percussions, et elles sont utilisées traditionnellement pour les cérémonies de cohésion de groupe, pour célébrer les cycles de la nature. Et puis au Guatemala, ces cérémonies-là sont très ancrées dans la civilisation maya, qui est encore très présente au Guatemala. Et en fait, avec toutes ces influences, je me suis dit, ben, il faut que je crée un objet qui me permette d'être en lien avec mon rythme et célébrer avec les personnes qui sont là autour de moi la nature.
Alors après ces voyages, lorsque vous revenez en France, vous créez votre association et vous donnez des cours de musique avec Pauline, votre femme.
Voilà, tout à fait. Le Serpent et le Papillon, c'est l'association qui a porté ces deux projets, qui se sont scindés en fait l'année dernière, avec moi qui ai affirmé mon envie d'en faire mon métier, et Pauline, ma compagne, qui maintenant vit de ses concerts. Notre envie, c'est de rester vivre en milieu rural, de l'art et des activités artistiques et culturelles. Donc, ça nous amène à travailler avec des écoles maternelles, des professionnels du spectacle ou des personnes en thérapie.
Vous avez un atelier à Darcey de construction et de fabrication, de conception des percussions?
J'ai une grange que j'ai aménagée et la mairie nous met à disposition l'ancienne poste pour qu'on puisse continuer à donner les cours de musique, les séances musicales.
Et à quoi ressemblent vos percussions?
Ce sont des tambours sur cadre, donc ce sont des instruments qu'on trouve dans beaucoup de civilisations. Par exemple, en Irlande, il y a le bodhran. Au Moyen-Orient, il y a le daf ou le bendir. Ce sont des tambours assez fins qu'on peut porter à la main. Et parfois, il m'arrive de faire des créations un peu particulières qui vont jusqu'à 1m20 pour, par exemple, un cirque qui m'a commandé un tambour pour jouer avec des balles rebondissantes dessus et jongler en musique.
Quel bois vous utilisez, Étienne?
J'utilise du tilleul, principalement. C'est un bois qui est très joli quand on le ponce bien, quand on le finit bien, et assez léger, pour pas non plus avoir un tambour qui pèse 5 kilos au bout du bras.
Et on peut venir chez vous et apprendre à concevoir et à fabriquer une percussion?
C'était vraiment mon objectif, c'est-à-dire que chaque geste puisse être répété par un enfant. Donc j'ai travaillé avec mes filles pour voir si effectivement ça fonctionnait. Et au fur et à mesure, j'affine ma technique pour que la pédagogie autour de l'instrument soit de plus en plus souple et facile. L'idée, c'est d'être créateur d'un objet.
Pierre, je rassure les puristes, avec ces percussions, on utilise des peaux animales et pas des peaux plastiques.
Alors, j'essaye de récupérer au maximum dans les abattoirs et puis de tanner moi-même quand c'est possible. Et sinon, je travaille avec différents tanneurs. Mais il m'est arrivé de faire des tambours en voile de bateau pour une personne justement qui voulait quelque chose qui tienne très très bien l'humidité. Et ça fonctionne très bien.
Bon, alors ça c'est incroyable. J'aimerais bien voir le résultat. Si vous voulez suivre le travail, connaître les conceptions, la fabrique des percussions à Darsèche et Étienne, la page Facebook c'est Étienne Tambour et vous allez trouver le lien à nos pages d'émission comme toujours. Merci Étienne.
Merci à vous Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Mobiliser des jeunes élèves d'un conservatoire à rayonnement communal autour d'un instrument, en l'occurrence l'harmonica, pour une participation à un festival de musique, c'est ce que propose la ville de Montbard. Le premier travail avait été lancé il y a 2 ans avec les enfants en collaboration avec le Grand Orchestre du Splendide, l'année suivante avec l'harmoniciste Greg Zlap et cette année avec Ben Touris, ainsi que vendredi, donc après-demain, 50 enfants de CM2 vont ouvrir le festival Montbard & Zazou en restitution des ateliers qu'ils auront suivi au préalable. Le choix de l'instrument est d'autant plus évident qu'à Semur-en-Auxois, il siège la société Honneur, siège France. La création qui sera donnée ouvrira tout logiquement le concert de Jean-Jacques Milteau, donc après-demain 21h, avant celui de Ben Touri. Et puis le lendemain, trafic parade conduit par Richard Kolinka et Axel Bauer. À 22h, on aime bien en parallèle du festival de musique les animations qui sont avancées par Vélo Folix, un collectif de passionnés du vélo Solex, dont un marché de pièces détachées et une brocante de Solex. Vu l'ambiance attendue, ça mérite un bon bourguignon. Vous avez un lien pour découvrir le programme de ce festival qui aura lieu donc vendredi et samedi, Montbard & Zazou, à Montbard. Fabien Anceau, bonjour.
Oui, bonjour.
Cher Fabien, artiste plasticien, designer graphique, diplômé des arts décoratifs, qui a décidé de s'installer dans un lieu, un village, un petit peu retiré du Nord Côte d'Or, un Chamson qui n'est pas nécessairement très connu de tous. C'est une maison personnelle que vous avez transformée en atelier de travail, en cabinet de curiosité et en bistrot associatif. Quand on est artiste, on a envie de se faire connaître et de trouver des débouchés, des réseaux de soutien. Arriver à Chamson, c'est peut-être pas l'idéal.
En fait, si, puisque après avoir fait quelques tours de France avec ma proposition artistique, où les gens disaient régulièrement, on dirait un cabinet de curiosité, je me suis aperçu qu'il serait peut-être plus judicieux de faire venir les gens autour de l'atelier plutôt que de passer du temps sur les routes. Je suis plasticien, pas artiste de variété, sans préjuger sur cette activité.
Ouais. Un cabinet de curiosité fait référence à une vieille tradition française qui avait quasiment disparu et qui revient au goût du jour aujourd'hui.
Oui, alors il se trouve que comme certaines de mes œuvres qui sont des vanités, ce sont des choses qui, un peu comme la mode, sont cycliques. Et dans des périodes malheureuses, comme en ce moment on peut vivre de repli, ce genre d'expression de vouloir collectionner le monde dans son salon, c'est un peu rassurant et donc c'est peut-être pour ça que ça redevient un peu à la mode. Moi, ça fait plus de 35 ans que je l'assemble, ce cabinet, et c'est le travail d'une vie qui est loin d'être finie.
Pourquoi vous parlez de vanité ?
Alors, les vanités, c'est un style de peinture qui est l'apparition du crâne humain dans la nature morte. C'est une peinture avec plein de codes qui raconte plein d'histoires sur notre passage dans l'existence. Et que quelle que soit notre condition, on finit tous dans le même état, quelque part. Donc autant laisser une empreinte positive lors de notre vie sur cette magnifique planète qu'on s'amuse à malmener.
Alors chez vous, c'est un atelier foisonnant, parce que il regorge de pièces, de vestiges que vous collectez dans la nature. Et en découvrant votre atelier, je me dis, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, la nature est encore généreuse.
Ah oui, c'est incroyable. Lors de promenades au bord de l'eau et en forêt, je reviens pratiquement tout le temps avec des vestiges, donc soit des bois caressés, j'appelle ça différemment que le bois flotté, ou des cailloux, ou des os, ou aussi des pièces de métal rouillé. Et comme ma sculpture est faite d'assemblage de ces matériaux, je collecte et j'en emmagasine beaucoup. C'est source d'inspiration et c'est un foisonnement de formes, de matières sans fin.
Alors le lieu s'appelle Les Impossibles et donc il associe au cabinet de curiosité un bistrot associatif. Est-ce que le bistrot est une manière d'ouvrir une porte supplémentaire aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller vers les espaces musées conventionnels, institutionnels?
Bah exactement. En fait, donc le cabinet de curiosité, c'est un petit musée privé gratuit, très important. On tient à ce que ça le reste. Et les gens donc qui aiment bien ce lieu passent pas mal de temps. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse leur proposer de se restaurer pour pouvoir être dans un endroit convivial. Et le café associatif, en fait, était tout à fait approprié à cet usage parce qu'en plus, les éventuels bénéfices sont entièrement dévolus aux travaux d'aménagement du musée qui s'agrandit d'année en année.
Ouais. Et puis alors, un phénomène rarissime, nous sommes donc dans le pays châtillonnais, ville de Châtillon-sur-Seine qui possède son musée du Vase de Vix, tombe princière, découverte en 1953, qui est un monument incroyable. Et vous avez, vous, découvert ou redécouvert la momie du prince de Vix.
Oui, oui, bah, tout à fait, puisque j'explore beaucoup la nature, j'ai pu faire des découvertes. Non, plus sérieusement, dans les cabinets de curiosité, il y a des chimères, et voilà, ce travail de reconstitution en fait partie. Mais l'histoire est très plausible, et ouais, d'aucuns s'y trouvent un peu à s'interroger.
Ouais. Finalement, chez les impossibles, tout est possible.
C'est exactement pour ça aussi qu'on avait choisi le nom de l'association. Possible des uns est aussi... l'impossible des autres.
Les impossibles avec un Z, lesimpossibles.com, il y a l'adresse aussi de la page Facebook, également aux impossibles. Merci Fabien.
Merci beaucoup Philippe, c'est toujours un plaisir de t'écouter et puis de pouvoir participer à cette super émission.
Eh ben merci. Avant justement de nous quitter, l'année prochaine, la saison prochaine plutôt, nous allons ouvrir grandes nos fenêtres pour aller aussi vers des initiatives et des entreprises alternatives partout en France, indépendamment de nos fils rouges. Donc n'hésitez pas à nous écrire. En Côte d'Or, on y reste, hein, selon La Chapelle, le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet.